Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 29 novembre, bientôt dans un jour. Le Cameroun est supposé livrer son dernier stade pour la compétition qui aura lieu, la Coupe d'Afrique des Nations, à partir du mois de janvier. Supposé donc livrer ce dernier stade demain. Ça sera un grand jour à Yaoundé pour savoir ce que le stade donne. C'est vrai que nul ne sait, sauf eux, quel est l'état actuel du stade, s'il est jouable ou pas. Mais apparemment, bon, la bonne nouvelle, c'est que, l'excellente nouvelle qui peut arriver avec celle-ci, c'est qu'on élit en même temps le président de la Fédération camerounaise du football. Et Eto Samuel est candidat à la présidence de la FECAFOOT, malgré le fait que le sortant se représente. C'est un peu comme une élection présidentielle à sa manière. Donc, ça sera mi-décembre qu'on saura qui sera le président. Il y aura les élections, mais pour le moment, les candidatures ont été validées. Et la bonne nouvelle, donc, je disais, c'est que si Eto est élu, Messi promet de venir au match d'ouverture de cette CAN qui aura lieu, qui commencera, donc, comme je vous ai dit, en janvier de l'année prochaine. Bien, on attend avec impatience si les délais seront respectés. Et si il y aura pas de couac, mais je crois qu'il n'y en aura pas, donc ça va. Sinon, aux États-Unis, il y a quand même une pensée pour la fille de Malcolm X qui a été retrouvée morte dans son appartement à New York, Malika Shabazz. Bon, je ne sais pas si on a fait une autopsie. Et ce sont des choses quand même assez sinistres et tristes, retrouver la fille de Malcolm X décédée en ces temps de grandes confrontations entre les deux camps, vous savez, le camp donc, qu'on appelle les woke. J'aime pas beaucoup cette expression, mais bon, c'est-à-dire ceux qui revendiquent, enfin qui sont antiracistes. Et le camp de la white supremacy, ça c'est pour schématiser vraiment, je caricature limite parce que woke c'est une caricature et la white supremacy aussi, quoique derrière les caricatures, on retrouve beaucoup de vérités cachées ou non avouées, mais c'est vrai que la caricature, elle n'a pas tout faux, c'est un peu comme... la fumée qui s'échappe du feu quelque part, même si on ne voit pas le feu. On verra les restes de braise ou une petite fumée qui va s'échapper quelque part. Bon, cela, c'est qui va nous ramener comme ça à l'élection présidentielle en France. Quand j'ai parlé de woke, c'était aussi en pensant au fait que les démocrates qui soutiennent les woke, on dirait comme ça, qui soutiennent, qui sont du même camp, rangés du même camp, sont en difficulté dans les sondages. Joe Biden et sa vice-présidente, les sondages sont terriblement durs. Bon, c'est vrai que lorsque le président est déjà en service, on peut faire confiance aux sondages, plus ou moins s'ils ne sont pas manipulés, mais disons que les sondeurs étant du côté des démocrates, il n'y a pas de raison qu'ils fassent de mauvais sondages pour le président Biden. Au contraire, il serait même, peut-être que les sondages seraient pires que ce qu'on dit et qu'au lieu des 38% où il se trouve, il serait peut-être moins. Donc, c'est à son avantage. que les sondages soient de son côté, et donc on ne peut pas les mettre en doute, vous voyez, dans ce cas-ci. Et il semblerait qu'ils aient tous ces problèmes pour tout simplement des questions idéologiques, parce que sur le plan de la politique, M. Biden a pris, enfin, il a engagé des grandes réformes sous la forme des textes de loi qui sont plus ou moins passés avec tous les volets qu'il fallait. Mais ça ne mord toujours pas, ça ne mord toujours pas. D'abord parce qu'il y a la façon selon laquelle il traite le Covid-19 avec cette façon très, comment on va dire, hitlérienne de poser le problème, c'est-à-dire que c'est devenu carrément la guerre. Les gens se sentent un peu frustrés parce qu'on est en situation de guerre alors que c'est pas la guerre, vous voyez. Bon, en fait, c'est pas vraiment la guerre où il y a des armes à feu, mais c'est une autre guerre, une nouvelle guerre. Il faudra peut-être s'y habituer parce que ça va être cela, les nouvelles guerres, les guerres bactériologique, et les gens sont pas très habitués à ça, et parce que ça crée des frustrations, ça crée des menaces, des licenciements, ça crée des ruptures parce que les produits ne sont plus livrés, ça crée de l'inflation, ça crée de la misère. Bon, ça donne pas du tout. Donc on peut avoir des beaux textes de loi d'un côté ou faire des sommets sur la démocratie, mais si de l'autre côté il y a des facteurs psychologiques qui vont pas du tout. Ça prend pas, la mayonnaise ne prend pas. D'autant plus, alors il y a des stratèges qui disent, j'ai lu un article là-dessus, Monsieur Carville, par contre, je connais très bien Monsieur James, et qui dit qu'il faut que les démocrates laissent tomber cette histoire d'immigration et cette histoire de racisme et qu'ils se concentrent, comme le président Joe Biden l'a fait, se concentrent uniquement sur l'économie. Donc, on parle plus de racisme, on parle plus de l'égalité, toutes ces choses-là, ça peut que leur créer du tort, la preuve. L'élection, c'est vrai, les élections qui se sont jouées récemment pour les gouverneurs, surtout en Virginie où ça semble être un drame, ont été essentiellement départagées par la question du racisme. En fait, c'est Madame, j'oublie son nom là, oh là là, tout d'un coup, Toni Morrison qui disait que le racisme a deux volets. Il y a le volet vraiment où quelqu'un est white supremaciste, Ku Klux Klan, il n'aime pas les Noirs. Et il y a un volet perception, tout simplement. C'est pas qu'on n'aime pas le noir, mais ça peut être insupportable de les voir comme ça parce qu'ils sont noirs. Et puis peut-être que oh, les hommes, vous savez, c'est toujours psychologique. Pourquoi est-ce que le blanc n'est pas à l'aise à côté du noir? Pourquoi il lui fait tout ce procès? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Bon, on va pas en finir. Tout ça pour dire que si on en est à dire qu'il faut laisser tomber le racisme, et laisser tomber l'immigration, ne plus en parler, ces sujets-là, parce que ça fâche. Ça veut dire en même temps ne pas enseigner, ne pas plaider pour l'enseignement de l'esclavage et de la colonisation à l'école. Si on en est là, je vais dire, c'est un aveu d'échec qui concerne aussi la crise française. C'est un aveu d'échec des politiques parce que là aussi se jouent des problèmes psychologiques. Pourquoi les républicains sont si, comment dire, réticents à embrasser tout ça quand ils entendent dire de défense de police, je ne sais pas comment dire ça, réduire, oui, les financements à la police, parce qu'effectivement, elle est trop équipée. Puis, vous savez, les guerres, il n'y en a plus, donc ce matériel revient et on le fourgue à la police qui se met à faire de la guerre en pleine rue et trop équipée les équipements militaires qui devraient être sur les champs de guerre. Il n'y a plus de guerre. Et c'est vrai que ici ils sont si équipés, s'il y a trop d'équipements, il faut peut-être réduire les financements. Et ça plaît pas parce que les gens qui sont les républicains pensent que si la police a moins de moyens, ben elle agira moins. Bon, c'est des débats aussi un peu démagogiques parce que c'est pas automatique ces choses-là. Mais admettons. Toujours est-il dit que personne ne va en entendre parler, surtout que ce qui énerve, c'est que dans le même temps, on entend que malgré tout, le département de la Défense continue à avoir un budget colossal. Ça, c'est pas normal. Donc les gens se sentent un peu floués dans la gouvernance, dans la gestion des affaires, où ils disent que... J'aime pas le mot gouvernance, hein, peut-être dire le management, ce serait mieux. Vous voyez, d'un point de vue psychologique déjà, en dehors, donc, pas en dehors, oui, en dehors des débats, avant même d'arriver au débat, tout ce qu'il y a autour du débat fait sens. Vous ne pouvez pas seulement venir avec vos beaux textes de loi et les poser alors que tout l'environnement et tout le contexte est pollué. Or, il se trouve que dans cette histoire d'immigration et de justice sociale, les Américains ont donné. Ils ont donné avec la loi sur la discrimination positive, notamment. Ils ont donné parce que il y a toute une classe quand même moyenne qui a émergé noire, même comme on dit que cette loi sur la discrimination positive a plus bénéficié aux femmes blanches qu'à la communauté noire. Bon, ça aussi, c'est des choses dont on parle, mais qui ne sont pas reconnues publiquement. Vous allez voir que tout ce débat rejaillit exactement dans les mêmes termes sur la campagne française. Et il y a cette première chose-là où les Américains se sentent un peu comme une orange compresse, compresse, compresse. Et maintenant où la misère, enfin j'allais dire la misère, c'est un grand mot, les rattrape aussi, enfin rattrape aussi le blanc, du moins celui qui n'est pas, qui fait pas partie de l'Amérique qui réussit, comme on dit. Il y a le fait que vous pouvez pas demander à des gens de continuer à soutenir ces grandes politiques d'égalité raciale, si dans le même temps, vous laissez passer les fraudeurs. Il y a une injustice vis-à-vis de ceux qui fraudent la loi, on les voit très bien, le fisc, et beaucoup d'autres choses, la façon dont les gens passent entre les mailles du filet. On va pas parler de ce qui s'est passé dans les deux dernières campagnes, à la fois pour Madame Hillary Clinton, qui a été soupçonnée de malversations terribles, notamment avec son serveur, quand elle était secrétaire d'État. Et on va pas parler non plus de toute la suspicion qu'il y a eu autour de l'affairisme du fils de Joe Biden qui concernait un peu son père, bon, autour de l'Ukraine et de la Chine. Bon, c'est des choses qui sont gênantes. On ne va pas parler des Panama Papers, on ne va pas parler de la crise de 2000, quand Obama était là, je ne sais plus, oui, en 2008, lorsqu'il est arrivé, qui a créé des problèmes terribles, des faillites. Et puis on a dit « too big to fail ». Donc vous êtes trop grand, vous n'allez pas échouer parce que l'Amérique va déclarer enfin, pas l'Amérique, ces sociétés allaient être faillitaires. Non, on va les sauver avec l'argent public, alors que ce sont ces sociétés qui ont organisé le coup, exactement comme un peu ce Covid qu'on soupçonne. Donc, vous voyez, les gens, ils voient ça, ils se disent, on a donné, et ça va pas. Il y a certains qui passent, qui sont pas sanctionnés. Alors maintenant, on vient nous demander de cautionner, recautionner une fois de plus les politiques d'égalité raciale et de justice sociale. Ce qui se passe, c'est que on ne peut pas faire fi, on ne peut pas écarter le modèle d'intégration des Juifs au lendemain de la guerre, enfin de la guerre, du traitement, enfin j'allais dire la Seconde Guerre mondiale, on va dire comme ça, ou même de la première, du traitement de Hitler. On ne peut pas écarter parce que c'est la même question, c'est la même suspicion qui règne autour de l'intégration des immigrés, des Noirs et des Arabes, et puis des autres minorités. On ne peut pas écarter le fait que, mais voilà, au lendemain de la guerre, on a accepté des gens. On a dit oui, justice pour tout le monde, on a laissé passer. Mais aujourd'hui, on arrive à voir que mais ces gens-là qu'on a laissé passer, finalement, ce sont eux qui nous dominent, qui commandent et qui influencent nos vies de tous les jours et qui nous soumettent à une pression incroyable qui va très très loin jusque là où j'ai cité tout à l'heure. Donc ça dépasse même la simple question anthropologique parce que c'est vrai que de façon anthropologique, l'homme, c'est un animal. Donc il va défendre son territoire par ses muscles et cette musculature, comme on va dire comme ça, était ce qui faisait que la République, enfin ce qui a justifié le fait républicain pour que on sorte du bodybuilding et qu'on réfléchisse. Et pour cela, que la raison domine. Et si c'est la raison qui doit dominer, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des critères objectifs qui vont régler toute la question de la raison. Et c'est vrai que les critères méritoires et d'égalité républicaine de l'école, du mérite, bon, voilà, c'est des choses qu'on a imaginées pour venir contrebalancer la question entre le fait anthropologique, qui est un premier fait naturel par lequel la musculature, le muscle, vous voyez, les luttes, il fallait lutter avant pour repousser les publics, les autres peuples. Ça, c'est un stade qui a été observé par la. Vous voyez, quand vous regardez le film sur, je crois, c'est La planète des singes, tout ça, mais ça, c'est des faits bien connus. On n'en est plus là, on a fait la République. Or, on fait la République et qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte qu'on est toujours floué de la même façon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous voyez, les mêmes débats sont posés de façon différente, en termes peut-être différents, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a donné des. On a donné. Pour la République et en retour on n'a rien. Hein, on se retrouve plutôt dominé par ce qu'on a favorisé hier. Donc si on peut pas toujours dire que les républicains sont des cons. Non, c'est pas des cons, surtout pas. Et on vient donc à la France. Alors, à la France, c'est stupéfiant, hein, c'est stupéfiant parce que c'est la même chose. On a donné cette chance-là au lendemain. Les gens sont arrivés, ils ont colonisé les médias, ils ont colonisé, enfin, je ne veux pas dire colonisé, ils occupent toutes ces hautes places-là, vous voyez, l'élite, et qui aujourd'hui s'est reconstituée, enfin, a reconstitué une forme de nomenclature, on va dire comme ça, qui fait qu'on se retrouve avec un clan au niveau de la France d'en haut qui dicte ses règles aux autres. Et donc, ça fait que quand Zemmour arrive et qu'il va dire ça parce qu'il est juif, alors c'est super parce que j'entends maintenant que Zemmour étant juif, il est antisémite. Franchement, faut pas exagérer non plus. C'est que il faut poser les problèmes et dire les choses. On a dit oui, de toute façon, depuis le début, puisqu'il est là, depuis le début. On attend le faux pas, on attend le faux pas. Et apparemment, le faux pas sera arrivé avec Marseille, où il y a eu ce bras d'honneur. Oh là là, quel bonheur! Tout le monde danse, la danse des Sioux, et se dit, bah alors là, j'entends, j'ai lu, Zemmour a encore quelques jours pour renoncer. Ah, après son bras d'honneur, la campagne de Zemmour va-t-elle faire pchit, pchit, voilà. Chirac, beaucoup de titres qui sont très société médiatique, mais c'est pire que cela, c'est pire que cela parce que j'ai vu un autre article qui parle de la crédibilité et la confiance envers les médias occidentaux, alors par leur propre peuple, hein. Les États-Unis sont les derniers, 29%. Vous voyez la confiance que le peuple américain a envers ses médias, 29%. La France, 30%. La Corée du Sud, 32%. Le Royaume-Uni, 36%. L'Espagne, 36% également. L'Inde, 38%. La Turquie, 41%. Le Japon, 42%. Le Canada, 45%. L'Allemagne, 53%, le Nigeria, 54%, alors qu'on pensait que le pays était très secoué par Boko Haram. Le Brésil, 54%. Vous voyez, la Belgique, 54%. Et la Finlande, 65%. C'est ce que cet article a bien voulu mettre en évidence. Mais vous voyez un peu où se situe la France. 30% de crédibilité. Ça veut dire que tous ces articles que vous voyez sur les journaux, qui mesurent, qui veulent mesurer, comme ils veulent mesurer, c'est un complexe médiatico-politico, et tout ce que vous voulez. Et ce complexe, les bobos, bien sûr, boboïsés, il faut ajouter, ce complexe, les académiciens, forcément, est surprenant. Parce que après les Lumières, on a quand même pensé qu'on pouvait faire une campagne digne de ce nom, c'est-à-dire sans le hooliganisme qu'on a vu, pardon, aux Amis de Marseille, ou en Suisse, ou en Angleterre. Il faut laisser l'espace public n'appartient à personne, il nous appartient à nous tous. L'idée des contre-manifestations, c'est trop facile. Nous sommes passés du jeu démocratique à l'anti-jeu démocratique. C'est du gangstérisme, c'est-à-dire c'est celui qui est plus fort, qui va terroriser l'autre, qui est plus organisé, qui est plus structuré. Je suis désolée, laissons chacun s'exprimer, répondons par le débat public comme la société française des Lumières. C'est-à-dire qu'il y a la raison, il y a la ratio. Descartes a dit, tout ce qui se conçoit s'énonce facile. Voilà. Donc, restons en cela. On peut ne pas être pour Zemmour, mais de là aller lui mettre, poser des pièges, poser des guet-apens, vous voyez tout ce qui se passe là. C'est lamentable parce qu'on fait ça pour le pousser à la faute. Et quand on le pousse à la faute, on court vite devant les télévisions pour dire oui, voilà, machin, c'est vrai. Marseille, c'est Jean-Luc Mélenchon, d'accord, mais il n'avait pas besoin de faire tout ça. Bon, à vrai, c'est vrai, Zemmour y provoque, il dit Marseille, vous savez, c'est bien la ville des Arabes, comme on dit, c'est-à-dire que c'est la ville où les Arabes sont le plus visibles, puisque c'est par là qu'ils partent, qu'ils prennent le bateau pour aller chez eux, et donc ils ont les bagages, ils ont tout ça, ça fait un peu souk, mais bon, si on le dit aussi, il ne faut pas qu'ils s'énervent, qu'ils répondent au lieu de venir provoquer Zemmour, casse-toi, machin, machin. Bon, on est aussi dans une forme de civilisation de la barbarie, de la sauvagerie, qui n'a plus rien à voir avec la France. La France, c'est pas ça. La France, c'est pas les politiques, parce qu'ils sont de l'establishment depuis, qui vont mettre, comment je vais dire, qui vont imposer leurs lois aux autres, qui ne font pas partie de la politique et dont la politique est réservée aux politiques, et ceux qui ne font pas de politique vont voir ailleurs un peu. Ce n'est pas normal. On a tout ce clan politique qui est contre Zemmour pour cela, et vous avez les journalistes qui sont contre Zemmour parce que, bon, il y a beaucoup de jalousie, hein, ceux qui n'ont pas pu, qui rêvent de ça, mais qui n'y arrivent pas. Et puis ceux qui ont appris que les têtes, il faut les couper. Bon, voilà, donc c'est un jeu qui est décevant. Et pourtant, nous sommes quand même arrivés à un moment où, tant que nous ne sommes pas honnête vis-à-vis de nous-mêmes, le peuple voit, le peuple se divise, la société est divisée. Est-ce que vous croyez que les provocations de Zemmour font tant de peine à qui que ce soit? Franchement, c'est peu connaître les immigrés quand vous parlez comme ça. Zemmour, il parle, les immigrés, ils écoutent, mais bon, ils écoutent et puis c'est tout. Ils sont pas obligés de voter pour Zemmour, ils voteront pour quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas pourquoi eux aussi ils rentrent dans ce jeu où c'est vrai que c'est bizarre hein, parce qu'il y a des études sur les médias qui faisaient croire que les médias n'avaient pas toute cette puissance-là. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, les médias organisent la compétition à leur niveau éliminent qui ils veulent et vous présentent à vous le peuple qui ils auront choisi en haut. Donc, le peuple joue le jeu de la farce et puis, tant pis pour eux. Après, il faut pas qu'ils viennent pleurer, puisque, parce que Zemmour a dit, Zemmour, de toute façon, les immigrés aussi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils attendent pour être candidat à la présidence? Ils peuvent bien aussi s'organiser, hein, et produire un candidat. Il est vrai qu'il aura des problèmes avec les signatures. Il faut avoir les parrainages des maires. Ça, c'est une clause qu'il va falloir abroger parce que c'est pas normal. Maintenant, le parrainage doit venir des citoyens, ça doit pas venir provenir des maires. C'est trop de pouvoir. Et où on voit que Monsieur Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore tous ses parrainages, alors qu'il est très bien placé et qu'il a commencé depuis, et que Madame Hidalgo vient tout juste de commencer. Elle a déjà tous ses parrainages, donc c'est très bien. On peut pas dire autre chose, mais on constate quand même que l'establishment marche très bien, tout fonctionne très bien, tout va bien, Madame la Marquise, on est entre nous et ça se passe bien. Donc, tout ça pour finir par dire que la question de la colonisation ou la question comment dire, de la civilisation dont on parlait, j'ai pensé à cette question-là et j'ai pensé à Césaire. J'ai pensé à Césaire, puisque là, nous arrivons à un moment où nous confondons civilisation et colonisation. J'ai pensé à Césaire et j'ai lu dans le discours sur la colonisation, justement, qui me rappelle le discours sur la méthode. Il dit, entre la colonisation et la civilisation, la distance est infinie. Voyez? La distance est infinie parce que pour lui, quand on parle de civilisation, tout ce qu'il voit, c'est qu'on parle de prolétarisation et de mystification. Voyez? La civilisation, nous n'en sommes pas loin. Il mettait en rapport la civilisation qu'on apportait, bien sûr, aux pauvres, illettrés de l'Afrique. Mais là, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une civilisation qui n'est pas loin d'être une colonisation qui lui ressemble tellement, parce que le peuple d'en haut colonise ceux d'en bas. Et la colonisation est comme ça une tête de pont. Pour lui, la colonisation est une tête de pont dans une civilisation de la barbarie, d'où à n'importe quel moment peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. Vous voyez un peu? La colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie, d'où à n'importe quel moment peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. Donc, faisons attention que certains d'entre nous ne paraissent pas comme colonisant le reste. Voyez? Et ça, c'est le débat qu'il y a aujourd'hui. Il ne faut pas que les politiques colonisent le reste des peuples, de la population, les empêchent de se présenter eux aussi. Il ne faut pas qu'une certaine classe pense qu'elle a le monopole de tout et les autres n'ont droit à rien. Et vous voyez, tous ces passe-droits, ça va pas. Tous ces fausses promesses, ce management qui ne donne pas les résultats attendus en termes, donc, justement, de perception que les gens ne. Alors, c'est vrai, Le Pen disait que maintenant on va retourner le problème de l'autre côté. Le Pen lui disait, mais je dis tout haut ce que les Français pensent tout bas. Et vous voyez, ça complique encore les choses. C'est-à-dire qu'on est dans une colonisation à l'envers, où c'est les immigrés qui viennent coloniser les Français, et ce que Zemmour appelait le remplacement et tout. Bon, ça, c'est des choses, on peut en débattre tranquillement. Et moi, je revendique le droit au débat parce que même derrière les provocations les plus qui paraissent. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, je vais dire, il ne faut pas non plus exagérer. Parce que à l'âge des politiciens qui se présentent là, à la moyenne d'âge, vous avez vu ce que c'est, ils vont pas jouer les naïfs ou je sais pas quoi. Donc le débat a l'avantage de faire en sorte que nous puissions réfléchir nous-mêmes, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Même l'absurde fait réfléchir et nous déplace dans notre façon de voir les choses. Pourquoi nous restons bornés? Si Zemmour a dit ceci, alors on va le tuer, faut il faut qu'il s'en aille. Comme on a dit, hein, que le premier qui est pur jette la pierre à l'autre. Franchement, faisons une campagne présidentielle à la française, c'est-à-dire où le débat est libre, où il n'y a pas de chausse-trappe, où on ne piège pas les gens. De toute façon, les immigrés ne sont pas des gamins. Soit ils votent idiotement, c'est leur problème, et soit ils vont savoir pour qui voter. Pourquoi? C'est que c'est la dite. Je veux dire, ce n'est pas les hommes politiques qui votent pour le peuple. Pourquoi ils parlent pour le peuple, qui parlent pour eux-mêmes et qui ne jouent pas, surtout ceux qui ne sont pas, parce que depuis 30 ans, ils sont là. Et les résultats, on les connaît, c'est ce qu'on reproche aux démocrates aux États-Unis. Amis des radios silence, moi je. C'est dégoûtant de voir tout le traitement qu'on fait à Émo Zemmour. Bon, Éric Zemmour, le doigt d'honneur, on a, je veux dire, lorsqu'on vous a poussé à bout, c'est facile de vous faire dérailler et puis vous arrivez à des choses comme ça parce que vous essayez de répondre aussi. Pas. Bon, on dit que c'est parce qu'il n'a pas encore la carrure de président. Il n'y a pas de carrure de président. Macron, quand il est arrivé, il n'avait pas de carrure de président. Maintenant, après, il l'a eu. Donc, tout ce qu'on veut, le jeu est clair, c'est que, il faut qu'il y ait une finale, un remake, Macron, Marine Le Pen, mais ça n'aura pas lieu. Amis des Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok depuis Yaoundé. Je vous dis à bientôt.